Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de Par les temps qui courent. Chaque soir, un entretien d'une heure avec les artistes qui font l'actualité culturelle. Ce soir, l'écrivain, l'auteur Valérie Manteau.
Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
C'est un retour vers le futur, aidé par les oiseaux, pigeons de la place Taksim ou colombes pour la paix sans drapeau, quelque chose qui serait directement adressé au futur et qui dirait « je suis prête ». Une jeune femme française rejoint Istanbul qui, pour plusieurs raisons, dont un amant, lui tient profondément à cœur. Elle découvre la figure de Rand Dink, journaliste d'origine arménienne, abattue en 2007 en pleine rue par un nationaliste turc. Elle en fait un sésame, ouvrant certaines rencontres et fermant d'autres portes. Elle en fait surtout un élan d'écriture, un sillon se superposant à l'élan amoureux, lui permettant d'adresser son intime inquiétude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'art, la liberté et l'amour? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Des questions qui résonnent fortement avec l'injonction faite à celles et ceux qui se disaient Charlie le 11 janvier 2015. Prouvez-le, lancez Charb, prouvez-le. Le Sillon est le nom du journal dont Rand Dink était le rédacteur en chef à Agos. Le Sillon, c'est aussi le titre de votre roman, Valérie Manteau. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Il paraît aux éditions Tripode en cette rentrée littéraire. Peut-être qu'il est dédié à celles et ceux dont l'absence et le souvenir résonnent, mais il m'a semblé avoir été écrit avec la résistance, l'amitié, l'humour et le corps des vivants. Je voudrais signaler Calme et tranquille, c'est le premier livre paru au Tripode dans lequel le choc du suicide de votre grand mère trouvait des échos au choc provoqué par la perte de vos collègues et amis de Charlie Hebdo assassiné en janvier 2015. Je le signale parce que ce sont deux livres qui, à mon sens, se répondent, se suivent, se correspondent. Est-ce que pour vous c'est le cas aussi? Et en quoi sont-ils liés? En quoi diffèrent-ils?
Ils sont liés, évidemment. D'abord, j'avais croisé le sillon de Rand Dink dans Calme et tranquille. Je l'évoque au détour d'un chapitre. Calme et tranquille se passait essentiellement en France, donc je parle de la mort de ma grand-mère, de la mort de mes anciens collègues de Charlie Hebdo. Et la fin du livre était une sorte d'échappée vers Istanbul, où je suis revenue après l'écriture de Calme et tranquille pour un plus long moment. Et dans ce premier séjour pendant lequel j'ai écrit Calme et tranquille, une amie m'avait confié un livre d'une sociologue turque qui est exilée en France depuis longtemps, qui s'appelle Pinar Selek, qui est une femme remarquable, très admirable à plein d'égards, et qui a écrit en 2015, donc pour moi juste après les attentats de Charlie, un très beau livre qui s'appelle « Parce qu'ils sont arméniens », qui parle de la question de cette minorité arménienne en Turquie et qui raconte l'histoire de Rand Dink, de ce journaliste qui a été assassiné. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée en lisant ce livre, pendant que j'écrivais Calme et tranquille, c'était pas tant l'assassinat, évidemment, qui fait écho, que la réaction de la société civile turque. Après, il y a eu une manifestation extraordinaire, assez inouïe dans l'histoire de la Turquie, après sa mort, le jour de son enterrement, des centaines de milliers de personnes dans la rue, avec des pancartes, toutes les mêmes, alors ça donne des images absolument saisissantes, des pancartes noires et blanches marquées « Nous sommes tous arméniens, nous sommes tous Rand ». Et pour moi, évidemment, ça faisait écho, enfin je pense pour nous tous, pour les Français, et pour beaucoup de gens d'ailleurs à l'étranger, aux manifestations du 11 janvier. Et voilà, ça m'a interpellée, c'était quasiment 10 ans auparavant, et j'ai voulu un petit peu voir ce qu'il en était resté, puisque c'était la question que moi je me posais, qu'est-ce qui va rester de ce mouvement « Je suis Charlie ». Et c'était un petit peu ça le début du sillon, c'était voir ce qui restait aujourd'hui en Turquie de cette société civile qui était sortie dans la rue après l'assassinat de Rand.
Moi j'ai eu vraiment la sensation en terminant le sillon, avant de le relire une deuxième fois, que c'était un roman du décentrement. Et je dis bien un roman, peut-être plus que Calme et tranquille, pour vous emmener sur la piste de en quoi ils diffèrent ces deux livres-là. Est-ce que vous avez eu la sensation avec le sillon d'entrer davantage du côté d'une part fictionnelle en tout cas.
Alors, je pense que c'est vrai. En même temps, il y a une part fictionnelle dans Calme et Tranquille aussi. C'est-à-dire que toute la partie sur ma vie privée, aussi bien dans Le Sillon que dans Calme et Tranquille, n'est pas très exacte. Enfin, certaines choses le sont, les choses qui me tiennent à cœur d'être dites par mémoire et par fidélité à certaines personnes sont exactes. Mais beaucoup de choses sont de l'ordre du jeu. Après, c'est vrai que Le Sillon est beaucoup plus remodelé. D'abord parce que c'était plus vaste comme sujet. Et je me suis un petit peu confrontée quand on a envie de rendre compte de quelque chose qui nous dépasse complètement. C'était pas une histoire que intime, l'histoire du Sillon. Il y a une ambition de rendre compte, autant que possible, avec les limites qui sont les miennes, de comment vit aujourd'hui une certaine génération de Stambouliotes. Et j'ai rencontré énormément de gens. J'ai parlé, voilà, comme dans n'importe qui d'ailleurs, je connais beaucoup plus de gens que ce qu'un livre est capable de reproduire. Je pouvais pas avoir 50 personnages. En tout cas, moi, j'aurais pas su faire ça. Donc évidemment, on recompose tout. Donc ça, je pense que au premier degré, il y a évidemment une grande part fictionnelle de réécriture et de recomposition.
Mais presque aussi dans l'écriture, dans le souffle littéraire, j'ai la sensation, je parlais peut-être pas d'ailleurs de l'exactitude des faits que vous racontez, mais peut-être d'un positionnement d'auteur, en fait, qui était, à mon sens, assez différent.
C'est vrai que dans Le Sillon, j'ai plus assumé le côté romancière. C'est comme si tout se passait dans ma tête quelque part. Il y a vraiment cette frontière-là, je pense, dans le livre. Pour plusieurs raisons, ça m'a semblé plus juste pour moi de reproduire les choses comme ça.
En tout cas, dans les deux livres, à la toute fin de Calme et Tranquille, dans mon souvenir, je crois que Istanbul est impassible. Mmh. C'est quasiment le dernier mot, sinon le dernier, de Calme et Tranquille. Et cette ville est extrêmement présente dès le départ du Sillon. Quand on s'est connus, Sarah habitait ce bastion gauchiste où je vis désormais. Elle louait un grand appartement où se succédaient colocataires de court et moyen terme, locaux et étrangers, pratique encore si commune en ville, les loyers stambouliotes et les salaires turcs ayant depuis longtemps divorcé. Malgré tout, la Turquie hissait avec panache et quelques hoquets la tête hors du marasme économique du début des années 2000. L'Istanbul laïque se balançait entre deux bords et délaissait de plus en plus volontiers la rive nord du Bosphore, l'européenne engluée dans sa nostalgie, pour se saisir de l'asiatique où les cafés, les galeries, les tatouages fleurissaient. Les soirs d'été, la bière à la main, on s'installait sur les rochers de la promenade en bord de mer pour narguer en face, dans le soleil couchant, la vieille Byzance, Sainte-Sophie et la mosquée bleue abandonnée aux touristes. On aurait dû se rappeler qu'ici parfois le ressac fait des dégâts. Pas pour rien que Zeus a cru utile de clouer Prométhée pour l'exemple à un mont du Caucase, probablement voisin de celui sur lequel Noé, dans son arche, se l'était tenu pour dit, en contemplant l'humanité pécheresse d'Anatolie emportée par les flots. Valérie Manteau, on est à la page 10 du Sillon, c'est-à-dire vraiment au début. Et très rapidement, on sent que la ville d'Istanbul, vous disiez tout à l'heure, tout se passe dans ma tête, en tout cas tout se passe dans la tête de la narratrice, et on se rend bien compte que presque la ville entière, elle est absorbée par cette femme qui la rejoint. Comment est-ce que vous décririez, avant de décrire votre propre rapport, le rapport qu'entretient cette femme avec l'espace dans lequel elle évolue ?
D'abord, elle est physiquement. Il y a une différence entre les deux livres. Je rebondis sur votre question précédente. J'ai déplacé l'endroit où la narratrice habite d'un livre sur l'autre. Je pense qu'il y a peut-être que moi qui m'en aperçois. Mais dans Calme et Tranquille, elle habite sur la rive européenne. Et dans Le Sillon, elle habite sur la rive asiatique. La rive européenne, c'est la rive touristique. Il y a énormément de gens qui vont à Istanbul sans traverser le Bosphore côté asiatique. Et moi, la rive asiatique, c'est vraiment là où je me suis sentie appartenir à cette ville. C'est l'endroit d'abord où on n'entend parler que turc. Les gens ne parlent pas anglais dans la rue, dans les restaurants, pas trop. Et c'est la rive asiatique qui m'a le plus. Je me suis perdue beaucoup dans la rive asiatique. J'ai beaucoup déambulé. J'ai adoré traverser tout le temps, évidemment, le Bosphore. Je pense qu'elle a un rapport comme ça entre deux. entre les deux rives, mais aussi entre quand on est étranger dans une ville. Moi, je comprends un peu le turc, mais vraiment pas très bien. On est dans une bulle quand on déambule dans une ville où tout le monde parle une langue qui nous fait musique dans l'oreille. Il me faut beaucoup de concentration pour comprendre ce que les gens disent dans la rue. Donc la plupart du temps, je les comprends pas, je les écoute pas. Et je suis dans ma bulle et dans ma tête. Et voilà, voilà le rapport que je dirais que j'ai à l'espace et qu'elle a aussi. Elle écoute ce qu'elle se raconte à elle-même, ce que éventuellement les lieux peuvent lui raconter, ce qu'elle est capable de déchiffrer, de lire. Au tout début du livre, elle passe devant une église et l'église lui saute aux yeux. Il y a des églises partout sur la rive asiatique. C'était l'ancienne ville chrétienne, hein, c'était la ville des minorités, l'ancienne Calcédoine, hein, qui maintenant fait complètement partie d'Istanbul. Mais c'était la partie de la ville dans laquelle vivaient les Arméniens, les Juifs, les Grecs. Et donc il y a des églises à tous les coins de rue qui ont été complètement absorbées par le développement urbain. Et on ne les voit presque plus, elles sont quasiment plus en activité d'ailleurs. Et de temps en temps, elles nous sautent aux yeux. On se dit, mais comment ça se fait qu'il y a un clocher ici ? Il y avait donc des chrétiens ici. Où sont-ils ? Où sont-ils passés ? C'est cette histoire-là aussi que j'essaye de raconter dans le sillon, de ces gens qui ont disparu.
De toute façon, il est toujours question de l'oubli, des réminiscences, des choses qui apparaissent quand on pensait qu'elles ne pouvaient plus apparaître. Une nuit d'amour entre deux états de conscience. En effet, des bâtiments qui vous font, vous, en tant qu'auteur, Valérie Manteau, développer des petits bouts d'histoire de la Turquie. Parce qu'au-delà même d'Istanbul, à plusieurs reprises, ce livre, il parle de la Turquie d'une façon contemporaine et parfois jusqu'au mythe, hein, puisque dans ce passage-là, vous faites appel à Prométhée. Ça signifie que pendant l'écriture, vous avez été aussi active dans ce genre de recherche.
J'ai pas une façon de rechercher qui soit très très rigoureuse, je pense. Mais je lis pas mal. Et puis c'est vrai que la Turquie, c'est une terre de mythes. Oui. Les grandes religions sont toutes passées là. Les mythes sont tout proches. Enfin, les monts du Caucase, de Prométhée, c'est vrai. Enfin, c'est tout proche. Noé, l'arche, est censé s'être posé sur le fameux mont Ararat qui fait la frontière avec l'Arménie. Donc évidemment, je pense que la Turquie est baignée de cet imaginaire-là et qui est par ailleurs notre imaginaire européen. Enfin, ça, moi, je trouve que c'est un paradoxe qui nous revient tout le temps. C'est-à-dire, on n'arrête pas de dire, surtout il y a quelques années, que la Turquie faisait pas partie de l'Union européenne et ne le ferait jamais puisqu'ils avaient une culture différente. Mais en fait, ce sont les racines de tout ce qu'on considère comme étant la culture européenne.
Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'un roman du décentrement. Et c'est, moi, j'avais pas noté la précision d'un passage d'une rive à l'autre entre un livre et l'autre, Valérie Manteau. En revanche, j'avais noté quelque chose vraiment de l'ordre du décentrement, du déplacement géographique et intime, notamment par une prise de conscience que nous ignorons, nous, ce qui se passe là-bas. J'utilise vraiment des grands pronoms, mais et quelque chose du parcours de la narratrice fait que elle prend conscience d'une scène politique, d'une scène intellectuelle, d'une scène artistique, d'une scène vivante dont on a peu conscience, donc on fait peu de cas dans les discours qu'on peut porter de manière générale sur la Turquie aujourd'hui. Ça fait partie du trajet que propose votre roman, non ?
Oui, et alors là, pour le coup, ça a été vraiment mon trajet personnel. Moi, la première fois que je suis allée en Turquie, j'étais incroyablement ignorante de la diversité de ce pays. Alors bon, c'est peut-être ma faute et ma propre ignorance, mais je pense quand même qu'elle est partagée par beaucoup de gens. On a une vision très caricaturale, et puis alors encore plus maintenant que le gouvernement turc est une caricature de lui-même. Mais il y a 10 ans, c'était un petit peu moins le cas quand même. Il se passait des choses extrêmement intéressantes en Turquie, dont on a eu un écho très très assourdi et très affadi. Et je pense à ces intellectuels extraordinaires. Alors je pense que Randink est peut-être de loin un des plus marquants, des plus charismatiques, des gens dont il est incompréhensible qu'on ne connaisse pas ni le nom ni l'œuvre. Mais il y en avait beaucoup, il y en a toujours, des gens d'une pensée, d'une richesse immense pour nous aussi. Et je pense qu'on connaît mal, oui. Je raconte au début du livre, ça c'est vrai, hein, moi quand je suis allée en Turquie la première fois, on m'a dit d'aller sur la rive asiatique. Non, on m'a dit, je suis dans le quartier asiatique. Et pour moi, ça voulait dire que ça devait être une sorte de quartier chinois. J'avais pas du tout conscience, je savais qu'il y avait une partie de la Turquie en Asie, mais j'avais pas pensé que ça pouvait être ça.
Et on vous a rappelé à vos manuels scolaires.
Tout à fait. Tout à fait. Le Bosphore, c'est par l'Europe de l'Asie. Tout le monde devrait savoir ça. Et je le savais en plus abstraitement, mais c'est vrai qu'on y est concrètement. Quand on traverse le pont sur le Bosphore, il y a marqué « Bienvenue en Europe ».
Dans ce passage que j'ai lu, non seulement vous décrivez Istanbul, mais vous décrivez ce que vous appelez un bastion gauchiste. C'est parce que vous inscrivez vraiment une narratrice dans une scène intellectuelle, je voudrais dire plus qu'intellectuelle, mais quelque chose de bouillonnant comme ça, qui résiste face à un mouvement qu'on voit s'amplifier aujourd'hui, mais qui était un mouvement de répression, de rétrécissement des espaces d'expression. Votre roman campe aussi cette résistance politique pour vous ?
J'ai essayé, vraiment. C'était d'abord, moi, j'ai découvert cette scène politique complètement là-bas. Je l'ai approchée d'assez près. Et elle, je la trouve fascinante. Je trouve qu'il y a vraiment une intelligence politique, alors dans des conditions catastrophiques, évidemment, hein, en ce moment. Le parti d'opposition en Turquie, qui s'appelle le HDP, aujourd'hui, depuis 2013, depuis Gezi, est un parti qui rassemble toutes les minorités en Turquie. On dit souvent le parti pro-kurde de façon abusive et vraiment qui rétrécit complètement le champ de cette formation politique qui représente toutes les minorités, y compris les LGBT, y compris les Arméniens. Pardon, je fais une petite parenthèse, mais avant-hier, samedi, il y avait une réunion de soutien au maire kurde comme il y a tous les samedis depuis, c'était la 700e. En plein centre d'Istanbul, en face du lycée Galatasaray. Et donc, cette réunion des maires kurdes a eu lieu et a été attaquée par la police, comme ça arrive de temps en temps.
Précision, donc c'est donc des femmes qui se réunissent
pour... Voilà, depuis, en fait, depuis les années 80, pour réclamer que leurs enfants qui ont disparu et qui ont été enlevés par l'État et selon toute probabilité assassinés par l'État, dans les années 80-90, soupçonnés d'appartenance au PKK, au parti terroriste kurde, que la vérité soit dite sur la disparition de leurs enfants et qu'éventuellement leur reste leur soit rendu. Bon, elles se réunissent tous les samedis. En général, les policiers les laissent à peu près tranquilles. Et samedi, comme c'était l'anniversaire, la 700e fois, ils ont interdit la manifestation et des personnalités de la société politique et civile sont venues les soutenir pour faire un sitting pacifique qui a été attaqué par la police et dont il est ressorti une photo absolument surréaliste qu'on voit sur dans les réseaux sociaux. Enfin, il faut vraiment voir cette image parce que je pense qu'elle incarne ce que c'est la résistance de la Turquie aujourd'hui. On voit 4 députés de ce parti, HDP, du parti des minorités, 2 femmes, dont une voilée, un député d'origine arménienne, Garo Paylan, dont je parle dans le livre d'ailleurs, un homme remarquable, et un journaliste, Ahmet Çik, journaliste d'investigation extrêmement connu en Turquie, qui a fait quelques mois de prison après le coup d'État, qui vient à peine d'en sortir, en conditionnel évidemment. Ces 4 députés sont agrippés pour retenir un jeune homme qui s'apprête à être enlevé par la police, et ce jeune homme est le fils de Hrant Dink. Je trouve cette image incarne tant de choses.
Parenthèse que vous faites pour dire que vous découvriez au moment de votre premier voyage la vitalité, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, d'une scène politique gauche que vous qualifiez de gauchiste, tout en essayant de la peindre d'un point de vue littéraire et de rendre cette vitalité-là.
En fait, j'ai voulu dans le livre. Bon, évidemment, il y a une partie politique et elle est importante. Je pense que les politiciens, une partie des politiciens d'opposition en Turquie sont très talentueux et mériteraient d'être connus. Et Hrant Dink était une personnalité publique. Mais j'ai aussi voulu incarner, parce que moi, c'est vrai que les gens que je fréquente, ce sont pas forcément des gens très engagés en politique. C'est la société civile, c'est les gens de ma génération, des trentenaires, qui ont participé à ce mouvement très particulier de Gezi en 2013. Moi, la première fois que je suis allée à Istanbul, c'était juste avant Gezi. Gezi, ça a été un mouvement d'occupation de place qui a été, ça c'est très symptomatique de la Turquie, à moitié rattaché au mouvement des indignés et à moitié au mouvement des printemps arabes, parce qu'on ne sait pas très bien de quel côté rattacher ce type de mouvement en Turquie, pour la démocratisation de l'État, un mouvement d'opposition qui a rassemblé de façon très étonnante des gens de tous les bords. Et c'était vraiment, il n'y avait pas de porte-parole très identifiée de ce mouvement. Et moi, je connais quasiment tout le monde, tous les gens que je connais y ont participé. Et je voulais incarner cette génération-là qui a fait Gezi, qui est anonyme, mais qu'on rencontre partout, dans tous les coins de rue, dans certains quartiers, évidemment, hein, à Kadıköy, enfin, là où ils sont tous aujourd'hui, et qui reste, oui, une forme de bastion, quelque chose avec un côté un petit peu assiégé, évidemment.
Et autour d'un lieu qui est un lieu important, qui s'appelle le Muse. et dont on sent que, je parlais de résistance tout à l'heure, mais c'est assez intéressant parce que c'est une résistance extrêmement pratique. Faire vivre un lieu qui a peine à vivre et pour lequel les gens qui tiennent ce lieu au sens presque physique du terme se battent presque au sens physique du terme. Quoi. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est ça aussi que vous peignez. Des gens qui donnent leur vie pour que des choses existent concrètement.
Ça, je pense. Alors, je sais pas, peut-être je connais pas suffisamment de lieux comme ça en France, mais ça me semble extrêmement symptomatique d'Istanbul. J'en connais des dizaines. Alors, le musée, j'ai inventé ce nom et je donne pas l'adresse du lieu qui me l'a inspiré. Mais en fait, je pourrais en donner des dizaines. Ça existe vraiment. C'est très courant, surtout sur la rive asiatique, mais pas seulement. Bon, alors après, l'immobilier coûte moins cher qu'à Paris. C'est
et
sûr c'est que c'est plus
de
facile. Alors, c'est moitié un café, souvent avec des réunions associatives. Si je caricature, mais à peine, des cours de yoga, des réunions féministes. Enfin, pas, je parle pas du livre, hein, mais ce type de lieu à Istanbul, ça existe à tous les coins de rue sur la rive asiatique. Et éventuellement, donc là, moi, je dis que ça héberge un journal, parce qu'il y a un lieu très connu sur la rive européenne, qui est le siège du journal Liman, qui est un journal caricature de premier plan, de grande importance, et qui a ouvert ses locaux. Enfin, le journal est dans un immeuble de plusieurs étages, et les étages du dessous sont un café. Donc c'est vrai que bon, je fais un petit peu écho à ce lieu-là que beaucoup de Stambouliotes connaîtraient. Mais il y en a vraiment beaucoup, et qui sont effectivement portés à bout de bras par des gens, parfois bénévoles, parfois arrivant à se tirer des petits salaires, qui font vivre des lieux où on se réunit, où les gens viennent boire le thé ou le café, éventuellement des bières aussi, et refaire le monde. Et ça existe vraiment. Et je pense que c'est là que beaucoup de choses se passent.
Et qui recompose un visage à cette ville-là dont vous décrivez aussi qu'elle change, vous citez Orhan Pamuk, mais d'un livre de Calme et tranquille jusqu'au sillon, Istanbul a changé et peut-être à la force, alors ça dépend de quel changement on parle, mais à la force de ces lieux-là par exemple.
Je pense qu'elle a changé, ces lieux-là se sont énormément développés disons dans les années 2000-2010, là clairement ils ferment plutôt. Bon, alors il y a une recomposition, c'est très intéressant. Moi, je suis pas du tout urbaniste, mais c'est vrai qu'on le voit pour le coup à vue d'œil depuis 2015, je dirais. C'est-à-dire depuis, il y a eu une succession d'attentats quand même assez rapprochés en 2015-2016, plus le coup d'État. On fait que les touristes européens ont quasiment réduit, je sais pas de proportion, mais énormément, et ont été beaucoup remplacés par des touristes du Golfe. Les touristes du Golfe fonctionnent pas du tout dans la ville de la même manière que les touristes européens. Ça recompose, alors comme Istanbul est une ville qui bouge à une vitesse extraordinaire, les cafés, les bars, les magasins se transforment vraiment à vue d'œil. Ça change les habitudes de tout un quartier comme Taksim est méconnaissable par rapport à il y a 10 ans.
Pourquoi est-ce que la République turque refuse d'admettre véritablement ce qui s'est passé?
C'est le plus gros problème. Et si on répondait réellement à cette question, elle n'aurait plus lieu d'être. Pourquoi ne peut-on y répondre? La République turque a été fondée, et dans son fondement même résidait le problème arménien. Le problème arménien a été noyé sous les fondements de la République, on n'en a pas parlé. Ce sujet est resté tabou. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a raconté cet événement de façon juste et claire à la société turque. Certaines parties et certains détails ont été cachés, et ce que l'on a transmis est souvent erroné. Dans la constitution même de l'identité nationale turque, cette histoire erronée joue un rôle considérable. Accepter l'idée même que le récit de cet événement est erroné, c'est remettre en cause votre identité même. C'est renier votre propre identité. Oui, c'est un malaise vraiment profond. Il faut être prudent, s'adapter à son temps, apprendre et comprendre le passé et essayer de le réapprendre petit à petit. Il faut une période de transition, réécrire l'histoire. Réfuter une version ou accepter l'autre serait un désastre. Cela ne serait pas juste. Je dirais ceci. Ceux de l'extérieur qui veulent le faire reconnaître et ceux en Turquie qui continuent de le nier font tous deux beaucoup de mal aux populations de Turquie. En effet, en ce moment, la population de Turquie n'est pas prête
à l'accepter ni à le nier. Au contraire, elle passe une phase d'apprentissage. Elle a besoin de cette période. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'apprendre, de savoir. Il est injuste de penser que la population sait la vérité, mais qu'elle la nie. D'après moi, c'est injuste. La population ne sait pas encore la vérité. Et par conséquent, l'heure est venue de la révéler et de savoir ce qui s'est réellement passé.
Dans votre bureau, il y a la photo d'Atatürk, ici et là-bas. Pourquoi ?
Si vous remarquez, j'ai choisi une photographie d'Atatürk intellectuel, c'est-à-dire lorsqu'il écrit, dessine ou lit. C'est une de mes photos préférées, le représentant. J'ai toujours beaucoup apprécié cet aspect de sa personnalité. Je l'ai mise car je le voulais, on ne me l'a pas imposé.
Valérie Manteau, on entend la voix calme et tranquille, pour reprendre le titre de votre premier livre, de Rand Dink, ici traduite par Jeanne Aléos. C'est un interview qui date de 2005, il est au micro de Frédéric Mitterrand pour TV5 Monde, et c'est un extrait d'interview dont vous citez quelques passages, plutôt à la fin de votre roman Le Sillon. C'est marrant, je dis que c'est plutôt à la fin parce que... finalement, cette figure de Rand Dink, elle est là, mais pas là. Et puis d'un seul coup, elle est un peu plus là, en citant cette interview. Alors, on va commencer peut-être par en dire quelques mots plus précis, si vous voulez bien, Valérie Manteau, sur qui était cet homme.
C'est vrai que je mets du temps dans le livre à citer vraiment le propos politique. Parce qu'au-delà de... Il a une pensée politique très intéressante, et l'extrait que vous avez diffusé, je pense, donne la mesure d'une très grande subtilité, d'une intelligence, vraiment. C'est-à-dire, son objectif, c'était pas d'avoir raison, c'était que les gens arrivent à progresser, qu'on résolve un problème qu'il identifiait comme vital pour la minorité arménienne en Turquie.
Bon. Et pour le peuple turc dans sa globalité.
Et pour le peuple turc dans sa minorité. C'est-à-dire, si le peuple turc continue à écraser la minorité arménienne...
Il est perdant aussi.
Voilà, il ne s'en sortira pas en tant que peuple. Je pense que ça, c'est un message de paix qui est encore tout à fait vraiment extrêmement valable, et d'autant plus après l'assassinat de la personne qui disait ça. C'est vrai qu'au-delà de ce... Enfin, je veux bien parler de son message politique, mais la figure de Rand Dink est assez étonnante quand même. Son parcours est très symptomatique de ce que peuvent vivre les minorités aujourd'hui en Turquie. Il est né dans une ville de Turquie assez reculée, à Malatya. Et ses parents sont arrivés à Istanbul, alors très très pauvres, avec une situation de famille très compliquée, 3 enfants. Ils ont dû placer les enfants à l'orphelinat. L'orphelinat arménien, et donc Rand et ses frères ont grandi à l'orphelinat. Et je raconte la scène en plus extraordinaire qu'il raconte lui plus tard, adulte, de comment les parents sont arrivés à devoir les placer, c'est-à-dire ils s'étaient séparés, ils avaient divorcé, et aucun des deux ne pouvait garder les enfants, et ils se sont disputés une fois en pleine rue pour ne pas avoir les gardés, et les 3 enfants, dont Rand était l'aîné et avait 7 ans, et les autres 4 et 5, ont disparu pendant 3 jours, se sont enfuis, et ont vécu tout seuls pendant 3 jours dans le quartier arménien et ont été retrouvés apparemment, selon la légende, dans un panier de pêcheurs. Et ensuite, du coup, l'orphelinat a accepté de les recueillir. Il a grandi à l'orphelinat arménien et il en est devenu le directeur. Une
le
fois
grand
adulte,
frère.
Le grand frère, tout le monde l'appelait grand frère. Et aujourd'hui encore, dans les manifestations à sa mémoire, les gens l'appellent grand frère. Il en est devenu le directeur. Il a essayé de se battre pour la reconnaissance des droits des minorités, notamment arméniennes, d'avoir des écoles arméniennes, de pouvoir être propriétaire de leurs terres et continuer à faire vivre des camps de vacances pour enfants comme ceux dans lesquels lui, il a grandi. Et puis, au début des années 80, il a fait un petit tour en prison puisqu'il était soupçonné de faire partie d'organisations marxistes. Après quoi, il a fondé une librairie, enfin qui aujourd'hui qui existe encore, il y en a plusieurs dans Istanbul, une maison d'édition et finalement ce journal, Agos, qui était dédié à la coexistence des minorités en Turquie, qui est un journal bilingue, en arménien et en turc, qui existe toujours, et qui a été son porte-parole. Mais c'était assez tardif dans sa vie, c'est en 96 qu'il a fondé Agos, donc qu'il a dirigé pendant 10 ans jusqu'à sa mort. Il écrivait l'éditorial du journal et dans lequel, effectivement, il se préoccupait de plusieurs aspects qui étaient la défense des droits de l'homme en Turquie, de façon générale, et en particulier, évidemment, la connaissance de l'histoire de la minorité arménienne. La connaissance et pas la reconnaissance tout de suite.
Et c'est bien ce qu'on entend dans cette archive.
Exactement. Il fait le pari que le problème vient de l'ignorance. Il ne veut pas, peut-être ne pas voir, en tout cas, il préfère stratégiquement ne pas considérer que les gens nient de façon volontaire. Il pense que si on sait, on comprendra et on acceptera. Il a un amour profond pour la terre sur laquelle il est né. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas la quitter, même quand on lui a fortement conseillé de le faire, puisque les menaces de mort pesaient sur lui bien avant qu'il soit assassiné. Il a toujours dit qu'il voulait rester parce que c'était là qu'il se sentait bien, c'était dans cette terre de coexistence. Moi, je peux que me reconnaître, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cet attachement viscéral, quand même, à un certain art de vivre et de multiculturalisme qu'on trouve en Turquie, qu'on trouve très particulièrement à Istanbul. Je pense qu'il a, beaucoup fait pour faire aimer et continuer à faire aimer cette façon de vivre qui, je dois dire, disparaît clairement, enfin, est très, très gravement menacée aujourd'hui. Il s'intéressait à ça pour la Turquie. Il militait évidemment pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ce qui ne lui a pas valu que des amitiés de la diaspora arménienne, notamment en France, enfin dans beaucoup de pays européens, qui étaient radicalement contre, qui mettaient comme condition à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne que la Turquie reconnaisse le génocide. Rand disait que c'était prendre le problème à l'envers, et qu'en envoyant la Turquie, en renvoyant la Turquie à des problèmes qu'elle ne voulait pas, que le gouvernement turc n'était pas prêt à résoudre comme ça, on enfermerait le peuple turc sur ses terres. Enfin, le peuple turc... pris au sens simplement des habitants de Turquie. Et c'est tout à fait ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment enfermé tous les militants pour les droits de l'homme, dont lui, mais dont beaucoup de gens qui se retrouvent en prison aujourd'hui sont inaudibles, enfin ont été inaudibles ces dernières années, parce qu'on les a laissés à la porte de l'Europe. Ils auraient infiniment bénéficié et peut-être été protégés par l'Europe, si l'Europe avait bien voulu jouer ce rôle-là. Bon. Voilà, il s'intéressait à ça. Il évidemment énormément milité aussi pour la réconciliation entre l'Arménie et la Turquie, pour l'ouverture de la frontière, qui est assez récente, hein, dans les années 80, je crois. Et aussi pour la connaissance et le développement de l'Arménie en tant que telle. Lui disait toujours que la diaspora devait arrêter de regarder, de se nourrir. Enfin, c'est ça qui lui a attiré d'ailleurs le plus de problèmes, de dire que en fait, pour l'instant, le ciment de l'identité arménienne, c'était le ressentiment envers la Turquie, et que ça aurait préférablement devait devenir l'espoir d'une Arménie qui irriguerait d'une culture un petit peu plus vivace l'identité arménienne. Voilà ce que je peux dire.
De manière générale, que ce soit via la figure de Rand Dink ou via l'ensemble de ce texte-là, Valérie Manteau, il me semble que vous signez un texte qui est tourné comme ça vers le futur, c'est-à-dire qui est tourné vers les oiseaux, vers ce qui traverse, vers ce qui circule, vers l'inverse de ce qui est stagné et emprisonné. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit avec cette force-là ?
J'espère. Après, c'est vrai que je me suis forcée, et puis c'est peut-être aussi quelque chose de survie quand on est dans un pays qui va pas bien comme ça. Et c'est vrai que moi, l'année que j'ai passée en Turquie était quand même particulièrement cataclysmique politiquement. De continuer à voir, malgré tout, la richesse et la force incroyable du peuple turc, enfin, de la beauté de cette ville, de l'histoire longue qu'on y ressent. De pas se laisser complètement aveugler par la dureté du temps présent que je nie pas du tout et que qui m'a affectée hein, comme tout le monde, mais effectivement de se projeter vers l'avenir, de savoir que l'histoire est longue et que le gouvernement actuel ne durera pas toujours.
Et que Rand Dink, bien qu'au mort, n'était pas seul, et non. Que des gens qui pensent avec cette force de paix, vous dites, c'est une figure qui cherchait, je ne sais pas si c'est vous qui l'écrivez ou si vous citez quelqu'un, mais qui cherchait tout le temps et avec force l'humanité, oui. Avec obstination.
Comme dans un jeu de Colin-Maillard.
Et ça, c'est fou, oui. Parce qu'il n'y a rien de plus réconfortant pour aller de l'avant que de savoir qu'il y en a qui le font avec tant d'ardeur. Quoi. Il me semble que c'est vraiment l'une des énergies qui anime votre écriture, et je dis bien votre écriture pour ne pas faire de ce livre livre, ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un livre sur Randink, absolument pas, parce qu'il me semble qu'il a une présence d'oiseau en tant qu'il vous permet d'aller d'un endroit à un autre, de rencontrer des gens, parfois de se voir fermer la porte, de se voir adresser des empathies ou au contraire des inquiétudes, ce qui ne fait pas de vous mensongère en disant j'écrivais sur Randink, mais comment vous vous en serviez de ce, comment dire, de ce passe-droit ou de ce passeport, de ce nom-là?
J'ai vraiment très souvent dit aux gens que je rencontrais que j'écrivais un livre sur Dink. J'avais pas l'impression spécialement de mentir et en même temps je savais très bien que ça allait pas ressembler à ça d'abord.
C'est malicieux de dire ça.
C'était peut-être un peu malicieux. Après, j'ai vraiment eu une très grande fascination pour lui. Le fait est que quand je rencontrais les gens, ce qui m'intéressait d'abord, c'était qu'ils me parlent de lui. Après, évidemment, moi, dans le livre, je me suis pas servie que de ce qu'il me racontait, je me suis servie d'eux comme personnage. Bon, en essayant de respecter absolument, mais c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps avant d'arriver à dire aux gens, en fait, j'écris un petit peu en deçà, enfin, ou au-delà, je sais pas, de la figure de Dink, et en fait, tout ce qu'on est en train de vivre ensemble, toutes ces fois où moi, j'ai rencontré des inconnus, où j'ai simplement téléphoné ou envoyé un message à quelqu'un en disant, je m'intéresse à l'histoire et à la figure de Randink, est-ce qu'on peut se parler? Et c'est très rare qu'on m'ait dit non. Il y a des gens qui étaient inquiets. Enfin, dans le climat politique, je ne peux pas du tout leur en vouloir, hein, mais qui ont très souvent accepté malgré tout de me rencontrer, parce que la mémoire de cette personne a créé comme un passage de relais, et les gens qui l'ont connu sont très heureux et très touchés, surtout dans le climat d'enfermement actuel, de voir des étrangers s'intéresser à cette histoire-là, de pouvoir passer cette mémoire-là. Ça m'a ouvert un nombre de portes extraordinaires, vraiment. Moi, j'ai rencontré des gens merveilleux, enfin... avec une très grande générosité, je trouvais que la vivacité de sa mémoire était le meilleur lien que j'ai pu créer avec beaucoup de gens là-bas. Donc c'est vrai. Après, c'est pas un livre sur lui, de façon un petit peu... bon, je botte un petit peu en touche en disant ça, on dirait, mais j'ai pas fait d'enquête du tout. Tout ce que je raconte dans ce livre, la plupart des Turcs le connaissent. C'est une histoire très connue, cette histoire de l'orphelinat que je vous racontais tout à l'heure est très connue. Moi, je suis pas allée chercher des détails sur sa vie. Ça m'intéressait pas particulièrement, d'ailleurs, de sa vie privée.
Mais c'est comme si ça vous permettait de trouver votre propre sillon.
Exactement. Moi, j'ai vraiment essayé de m'inscrire dans ce groupe de personnes qui ont la mémoire de cette personne-là à l'esprit. Et ça, je pense que je suis juste en disant ça, je l'ai. Enfin, je l'ai adopté. Ou il m'a adopté. On s'est coopté avec ce groupe de personnes. Je suis allée tous les ans à la date anniversaire de son assassinat. Il y a un rassemblement qui se fait à l'endroit où il a été assassiné, qui était au pied de son journal, à vrai dire. Et l'année où j'y suis allée, c'était juste après le coup d'État. Et on n'était pas très nombreux. Enfin, il y avait beaucoup plus de policiers que de manifestants. Et il y avait un hélicoptère au-dessus de nous. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être en train de faire quelque chose de très problématique. Et là, on se compte un peu. On se compte avec les gens qui ont... alors, je ne veux pas dire le courage. Enfin, je m'inclus pas là-dedans, parce que moi, j'avais pas besoin de courage pour faire ça. Moi, en tant qu'étrangère, il peut pas m'arriver énormément, à part me faire expulser. Mais eux se comptent. Et oui, bien sûr, me cooptent à un certain moment d'être là dans ce rassemblement un peu bizarre pour quelqu'un qui est mort il y a 10 ans et qui, malgré tout, reste un point de rassemblement pour des gens qui se battent aujourd'hui. C'est important.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire. Tu t'es pas fait prier, j'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho.
vous subsiste encore tous mes goûts. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je m'en, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Fantasy militaire, tout l'album, j'ai pensé pratiquement à une seule image que j'avais vue un jour à la télé. Je voyais un militaire au Rwanda, je crois, et qui déchirait son béret avec son couteau. Et il pleurait, et apparemment, il ne savait plus quoi décider. Il était dans le désarroi le plus complet. Et de voir un militaire faire ça, parce qu'un militaire, c'est quand même quelqu'un qui est entraîné pour garder son sang-froid, pour être costaud. Et voir que ce genre de personne peut craquer, ça veut dire que sa tête est farcie de contradictions, de paradoxes. C'est insupportable pour le commun des mortels. Donc il y a quand même des choses qui arrivent, qui nous bousculent de telle manière que ça nous fait imploser ou exploser, je sais pas. Alors moi j'ai la chance de pouvoir le raconter, mais d'autres ne savent pas comment le sortir ou le raconter. Alors ça peut se traduire par de la violence. Pour moi, faire un disque, ça peut être aussi un acte de violence, mais c'est une violence plus canalisée.
C'est la voix d'Alain Bashung. Valérie Monteau, je ne sais pas pourquoi j'y tenais absolument, mais je voulais qu'il y ait la voix d'Alain Bashung encore plus que la chanson. La nuit, je mens, donc sortie de l'album Fantasy militaire, paru en 1998. Là, il parlait en 2014. Il se trouve que ce sont les derniers mots de votre roman Le Sillon qui sont empruntés à Alain Bashung, mais j'avais l'impression qu'il était tout le temps là, que c'était presque une sorte de bande-son à ce roman, presque aussi comme... Étonnamment, la seule chose qui restait de la France, je sais pas, de la langue française, qui persistait de la langue française, qui était là, que c'était cette poésie qui était présente.
Ah, c'est possible. Oui, moi, ça me bouleverse aussi de l'entendre. Et en plus, je crois que je connaissais pas cette histoire du béret du soldat.
L'image manquante.
Oui, et ça me parle beaucoup. Et ça fait des échos très intéressants, je trouve, qui pourraient peut-être expliquer a posteriori, bon, de façon un peu fausse. Mais pourquoi est-ce que il y a quelque chose de la résistance, de la poésie, de la beauté et du lyrisme que pour moi, dans le livre, j'incarne effectivement dans cette chanson qui revient plusieurs fois. Bon, je trouve que c'est évidemment un chef-d'œuvre de la chanson. Je ne réinvente rien en disant ça. Elle m'a beaucoup accompagnée. Moi, quand je marche, j'ai très souvent les écouteurs et j'écoute tout le temps la même chose. Alors, je suis complètement obsessionnelle. Donc, j'ai écouté cette chanson peut-être des milliers de fois, je pense. Alors, pour moi, elle est du coup très localisée à Istanbul. Je vois très bien dans quel quartier et à quel moment j'écoutais cette chanson-là, cet album-là. Et je crois que c'est vrai que là, quand on se parle du livre et qu'on parle du propos, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression d'avoir fonctionné de façon un petit peu rationnelle. Et effectivement, mon propos, il y a une partie politique, et il y a une partie de description du réel, mais j'ai une grande aspiration quand je lis et quand j'écris à ce genre d'envolées qui sont magnifiquement réussies dans La nuit je monte, à cette liberté dans le texte d'avoir des échappées, d'avoir des phrases qu'on comprend oui et non, c'est pas très bien ce que ça fait là, mais c'est important que ça y reste. Moi, j'ai vraiment essayé de conserver dans le texte des sortes de scories comme ça, peut-être parfois des choses qui sont pas utiles profondément au propos, pour peu qu'il y ait un propos, mais justement Je ne sais pas si j'avais tellement envie qu'il y ait un propos très identifié à ce livre. Je voulais aussi qu'il y ait un souffle, qu'il y ait une liberté, justement, dans la, et à la fois dans la construction et dans, le, dans l'écriture. Et pour moi, cette chanson, elle incarne ça. Et après, très littéralement aussi, les paroles de la chanson disent « J'ai dans les bottes encore des montagnes de questions où subsiste encore ton écho », bon, ça me, je trouve ça bouleversant. Je me reconnais beaucoup.
Il y a aussi dans la voix et dans les mots de Bachung quelque chose de la présence. Et s'il y a énormément de déplacements, presque d'errance dans ce livre Le Sillon, il y a la présence de cette femme et puis il y a toutes ces présences que vous parvenez à faire exister par votre langue, par ce lyrisme et par, je crois, la, la vitalité que vous leur prêtez. Mais je trouve aussi que cette persistance de la poésie de ces mots français, en tout cas, me permettait de parler de, du décalage qu'il peut y avoir ou des incompréhensions qu'il peut y avoir entre cette femme française et puis celui qui est appelé l'amant turc et qui demande toujours pourquoi tu es en train de faire ça, à quoi ça sert, qui questionne toujours ce que c'est qu'écrire, en fait. Mais pas seulement à cette femme-là, presque dans l'absolu. Oui. Et qui l'oblige, elle, à dire, ben, en fait, qu'est-ce que je fais là, moi? Oui. À quoi ça sert? Ça répond à quoi? Et je trouve que c'est vraiment un livre qui parle de ce que c'est qu'être en train d'écrire un livre.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça a été une des questions qui m'ont suivie, qui me continue d'ailleurs pas mal à me suivre. Pourquoi avoir fait ça? J'avais pas énormément de choses à faire à Istanbul, mais alors du coup, vraiment, quelle idée de m'être mis dans un projet qui me dépassait complètement, qui m'a confrontée énormément à toutes les limites que j'avais. Alors la question de la langue est fondamentale. J'écris sur un journaliste, un des personnages principaux du roman est un journaliste arménien turc. Je parle pas du tout un mot d'arménien et très peu turc. Je me suis du coup confrontée à faire beaucoup d'interviews avec des gens. Bon, parfois l'anglais était défaillant, le français évidemment m'a servi très peu. Donc la question de la langue est dans la vie quotidienne. Quand on habite à l'étranger, et quand on partage la vie de quelqu'un dont on parle une langue seconde, tous les deux, c'est-à-dire on se parle en anglais, et dans l'anglais, dans mon passage à l'anglais et dans son passage à l'anglais, on perd énormément de choses. On en gagne aussi d'ailleurs. On se crée des personnages. On ne parle pas du tout de la même manière. Moi, on m'a très souvent fait la réflexion que je ne parle pas du tout de la même manière en anglais qu'en français. C'était très troublant pour ce personnage de l'amant turc, comme vous dites, mais je lui donne pas de nom du tout dans Le Sillon. C'est dans Calme et tranquille que je l'appelais l'amant turc. Et dans Le Sillon, je l'ai même pas nommé. Bon, enfin, c'est une autre question. Et il me disait très souvent, quand il m'entendait parler français avec d'autres gens ou au téléphone, qu'il ne me reconnaissait pas, il ne reconnaissait pas ma voix. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Quand on parle une autre langue toute la journée, on est une autre personne dans cette autre langue. On réfléchit différemment, on réfléchit avec d'autres mots, avec beaucoup moins de mots en plus, et avec d'autres échos. Je parlais un petit peu de ça, je crois, dans Calme et tranquille, je crois que c'est dans Calme et tranquille, qu'en anglais, moi j'ai une mémoire auditive très bonne et je répète très volontiers des choses que j'ai entendues facilement. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de parler vite, souvent je réutilise des phrases de chansons, des poèmes, enfin le peu de choses que je peux apprendre par cœur, ou des choses même que j'ai entendues, qu'on m'a déjà dit. Mais je suis une éponge complètement, en anglais bien plus qu'en français, d'expressions que j'ai entendues d'ailleurs. Bon, alors tout ça, ça interroge vachement quand on écrit en français. Et dans Le Sillon, j'ai choisi qu'il n'y ait pas du tout d'anglais. Il y en a trois mots, je crois. Ce qui n'était pas le cas dans Calme et tranquille. En Calme et tranquille, j'avais pas voulu traduire les propos de l'amant turc. Il restait en anglais avec la singularité que ça a, l'irréductible étrangeté de sa langue. Dans Le Sillon, j'ai absolument tout traduit, alors qu'en fait, très peu des dialogues que je retranscris ont eu lieu en français. C'était une façon de tout mettre sur le même niveau et de tout me réapproprier, de me remettre aussi de là d'où je parle, c'est-à-dire ce que je peux transmettre, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris et j'ai traduit. Évidemment trahi, comme on dit.
Mais ça vaut pour lui et ça vaut pour tout le monde. Vous avez un usage du style indirect qui fluidifie tout, c'est-à-dire que la parole des autres rentre dans la vôtre et elle devient sinon votre parole, en tout cas l'une des rivières de votre fleuve à vous, quoi.
Exactement. Au point que ce dialogue que vous mentionniez, où il me demande pourquoi est-ce que tu vas raconter tout ça, en fait, c'est vous qui avez lu que c'était lui qui le
Exactement.
Disait. Moi, je le dis pas. Et il est tout à fait possible à ce stade du roman qu'elle se parle toute seule, puisqu'il a disparu.
Mais d'ailleurs, c'est probablement moi qui lui donne à tort une présence plus forte qu'il n'a dans ce texte-là, où il ne cesse de s'abstraire et de devenir qu'une idée qu'on voit de très très loin, alors que dans Calme et tranquille, il a beaucoup plus de corps, de voix, et d'ailleurs, il vous gardez ses mots. En effet, ce n'est peut-être pas lui qui vous demande pourquoi vous écrivez tout ça.
Mais votre interprétation, à mon avis, est aussi très juste. C'est-à-dire, oui, il me le demande et il me confronte à cette question tout le temps. Effectivement, pourquoi est-ce que... mais pourquoi je suis en train d'écrire, c'est une question sans fond.
Je fais quelques pas vers chez moi et je ne peux pas. Je longe le bord de l'eau, instinctivement, vers mon ancien appartement, la lumière est allumée, je sonne. Il dit pas de problème, monte. Je suis tremblante. J'avale un whisky, deux. J'envoie un message à Asle pour savoir si elle est bien arrivée, sans réponse. J'ai des douleurs dans les gencives, des crampes dans les mains. Je suis sur le point de prendre un troisième verre, mais la bouteille est confisquée. Elle a dû aller se coucher et tu devrais faire pareil. Je ne peux pas aller me coucher. J'ai envie de vomir. J'ai l'impression d'être prise dans un engrenage déjà vu, mais trop tard. Qu'on ne peut rien faire pour empêcher. Empêcher quoi ? Le corps de Rente à terre, le drap blanc qui se soulève malgré la flaque de sang qui le colle au pavé. Nagi, abattue d'une balle de silencieux en pleine rue à Antep. Les deux voisins du dessous, à Urfa, décapité. Tahir Elchi qui court et le policier qui se retourne et tire. Mais non, ça ne peut pas être aussi simple. Je suis interloquée, ça ne peut pas être aussi simple. Qu'est-ce qui est simple là-dedans ? Ma voix déraille et c'est lui qui s'énerve. Arrête avec ça, arrête. Sa voix résonne partout, dedans, dehors, et le silence qui suit est trop pesant. Je me mets à pleurer, il sort fumer sur le balcon. Quand il rentre, je me suis recroquevillée sous la couette, il s'agenouille au pied du lit, le menton sur les mains. Toute la douceur du monde dans ce regard. Il dit en turc, en posant la main sur mon front, « N'aie pas peur ». Le premier mot de l'hymne national. C'est un deuxième extrait du Sillon, votre roman, Valérie Manteau. Tout à l'heure, on disait, en parlant de ce texte, on a l'impression de quelque chose de très rationnel qui décrit les choses politiques, la Turquie contemporaine, la figure de Randink. Il ne faudra pas oublier que c'est des mouvements extrêmement intimes, en fait, qui organisent la description de tout cela et on l'entend dans ce passage. Qui, lui aussi, situe tout sur une frontière extrêmement ténue entre la profonde intimité qui relie deux êtres et la politique, puisque la fin de ce passage se termine par le rappel de l'hymne national. Comme si la question adressée en permanence était la place de la politique dans nos vies, la place de nos vies dans la politique. Il y a un homme que va interroger la narratrice qui dit « Bon, un, déjà, m'attire pas d'emmerde avec ton bouquin, et deux, fais un enfant. » C'est tout le temps ça, ce livre, il dit tout le temps ça, quoi. N'oublions pas de vivre aussi nos vies à nos échelles d'humains.
Ouais, c'est... je pense qu'effectivement, quand je lisais, c'était un petit peu une mauvaise idée dès le départ, parce que je pressentais ça, et le passage que vous avez lu, ça me saute aux yeux. La question principale aussi, quand on s'attaque à des sujets comme ça, politique en général et puis dans des contextes difficiles, c'est comment on va vivre avec tous ces morts, enfin cette liste de morts que je pourrais évidemment allonger infiniment. Ça affecte énormément la vie quotidienne. Ce passage, alors là pour le coup, c'est assez exact. Cette soirée a vraiment eu lieu comme ça et c'était en rentrant d'une soirée où j'accompagnais Aslı Erdoğan qui venait de sortir de prison et qui était dans un état très compliqué, évidemment, comme quelqu'un qui vient de retrouver une liberté très provisoire et qui est très traumatisée. Et moi, de l'avoir laissée rentrer chez elle, comment je rentre chez moi après ? avec quoi je rentre chez moi comme boulet. Et c'est vrai que...
Et comme peur
incroyable qu'il lui arrive quelque chose. Voilà, ce que je raconte. Enfin, moi, évidemment, c'est à ça que je pensais tout le temps. Quand elle est sortie de prison, les gens la reconnaissaient dans la rue. Elle achetait ses cigarettes, le vendeur de cigarettes l'identifiait, ça se voyait dans son regard. Et alors, qu'est-ce qu'il pense, le vendeur de cigarettes? Elle est accusée de terrorisme. Enfin, c'est pas une blague. Alors évidemment, il y a des gens qui se précipitaient pour lui serrer la main et lui dire à quel point il la soutenait. Mais il est tout à fait possible que quelqu'un l'agresse. Elle n'a évidemment pas de protection. Et quelle protection? Quelle protection on peut attendre de la police? Donc oui, la peur, elle m'a atteinte. Et il y a un moment où... dans le livre, je fais dire à quelqu'un qu'une fois qu'on commence à avoir peur, il faut partir. J'ai souvent entendu ça de la part des Turcs. Et ceux qui restent disent « je reste parce que j'ai pas peur ». Mais l'inverse, en fait, existe tout à fait. Les gens commencent à avoir peur de rester vivre dans leur ville, dans leur pays. Moi, j'ai été très affectée par ça pendant l'écriture. Et alors, au-delà du projet du livre, c'est aussi la pertinence d'habiter là-bas. Alors, la particularité aussi de la situation que je décris dans ce passage, c'est de vivre avec quelqu'un qui a choisi de faire autrement, c'est-à-dire il est très engagé politiquement dans ce café dont je parlais, mais il voulait pas tellement en parler. Et il était très méfiant à l'idée que ça, justement, que ça envahisse, que ça colonise un peu la vie privée, l'intimité de la maison. Il aimait pas trop, il voulait pas que je ramène ça chez lui. Chez nous. Donc, ça a beaucoup compliqué. Ça nous a beaucoup éloignés, je pense. Que je ne puisse pas m'empêcher de le faire.
Est-ce que l'écriture va contre la peur ou a quelque chose à apporter contre la peur?
Je suis pas sûre de moi en répondant. Je crois que... Moi, je crois que ça alimente la peur beaucoup.
D'écrire?
Ouais. Moi, je crois que je me suis vraiment... je me fais peur. Mais que je peux pas m'en empêcher.
Je vous remercie beaucoup, Valérie Monteau. On a parlé du Sillon, c'est votre roman qui sort en cette rentrée littéraire aux éditions du Tripode. Et on a aussi parlé de Calme et Tranquille, qui est aussi paru au Tripode. Du coup, achetez les deux, comme ça, ce sera plus simple. Merci beaucoup.
Merci.
Au son ce soir, c'était Fabien Capel à la réalisation, Charlotte Roux. Par les temps qui courent, on se retrouve demain soir à 21h et quand vous voulez sur franceculture.fr, en réécoute ou en podcast auquel vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite une très belle soirée. Je remercie Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Laure Chaston qui pensent et préparent cette émission avec moi. Remember, it's hard.